C'est maintenant l'heure de la chronique économie en compagnie de Michel Poitevin. Bonjour Michel.
Bonjour Hélène.
Un examen plus approfondi des conséquences de l'augmentation des prix du pétrole avec vous ce matin. La guerre en Iran se poursuit malheureusement et le prix du pétrole est toujours affecté.
Mais oui, de ce temps-là, depuis un mois et demi, là, la géopolitique détermine le prix du pétrole. Donc des facteurs un peu non économiques, mais qui ont des impacts économiques importants. Avant la guerre en Iran, le prix du baril était autour de 70 $. La semaine dernière, il a monté jusqu'à un peu plus que 110 $. Puis là, ce matin, on est revenu à 97. C'est quand même une hausse de près de 40% par rapport à ce qu'on avait avant la guerre. Ça a baissé. Là, on est en bas des 100 $. C'est un peu la barrière psychologique. Là, les gens disent, bon, on est-tu en haut ou en bas de 100 $? On est un peu en bas parce qu'on a l'espoir que les négociations reprennent puis que le conflit se termine.
Ouais.
On espère bientôt, mais il n'y a rien d'assuré. Là. Les nouveaux développements, le président Trump a décidé à son tour de bloquer le détroit d'Ormuz parce que l'Iran le bloquait, mais laissait quand même passer des bateaux amis qui envoyaient son pétrole dans des pays en guillemets amis de l'Iran. Alors là, Trump a décidé que même ceux-là, ils ne passaient plus.
Au-delà de l'essence, Michel, comment on est affecté par le prix du baril de pétrole?
Bon, évidemment, l'essence, on y pense tout de suite, là, le transport par voiture, par camion, mais il y a aussi le transport aérien. Il y a plusieurs compagnies aériennes qui ont commencé à imposer une surcharge là, pour le prix de l'essence élevé sur leur billet d'avion. Donc, on voit que tout ce qui est relié au transport est affecté, mais le transport, ça affecte aussi les produits de l'agriculture qui sont transportés. Il y a un paquet de choses qui transitent par soit avion, fret ou camion. Ces produits-là vont être affectés. Mais il y a d'autres secteurs. Là. Évidemment, le secteur de l'énergie, on utilise beaucoup les énergies fossiles pour fabriquer de l'acier, du ciment, de l'aluminium, possiblement hors Québec. Là, nous, on est chanceux parce qu'on a de l'hydroélectricité. Mais dans plusieurs pays, le chauffage, la ventilation, ils n'ont pas le luxe qu'on a ou le loisir d'avoir l'hydroélectricité comme on l'a. Alors, souvent, l'électricité est produite à partir de centrales qui utilisent du mazout. Il y a également toute l'industrie pétrochimique. On fabrique des plastiques, des engrais. Donc, on utilise beaucoup les énergies fossiles. Donc, ça va finir par se répercuter sur les prix si la guerre se prolonge. Jusqu'à maintenant, on n'a pas vu trop d'effets de ce côté-là. Les chiffres sur lesquels qu'on pourrait regarder, c'est vers la fin de la semaine dernière, aux États-Unis, on a publié les derniers chiffres d'inflation. Puis l'inflation a augmenté en février sur une base annuelle, on était à 2,4%. Puis là, en mars, on est à 3,3%, une hausse marquée, là, presque un point de pourcentage. Et puis c'est vraiment l'énergie qui augmente, le coût de l'énergie, l'essence à la pompe qui a augmenté de 21% aux États-Unis. Évidemment, c'est relié aux tensions géopolitiques là, en Iran puis au Moyen-Orient. Mais les prix hors alimentation et énergie n'ont augmenté que de 2,6% par rapport aux 3,3% pour l'indice général. Donc, on voit que ça n'a pas commencé à affecter beaucoup ou trop les biens qui sont pas directement affectés comme le prix de l'essence ou l'énergie. Mais si la guerre se prolonge, encore une fois, ça va avoir un impact. Au Canada, les chiffres vont sortir le 21 avril. Donc, la semaine prochaine, on devrait en parler. Là, habituellement, ça sort un petit peu avant la chronique. Donc, on va être capable de voir l'impact là, de la guerre en Iran sur notre taux d'inflation. Je rappelle qu'en février, au Canada, on était à 1,8%, ce qui était faible. Donc, la semaine prochaine, on verra ce qui arrive.
Bon, alors, vous le disiez, si la guerre se prolonge, on va ressentir les effets.
Oui.
Bon, quel genre d'effet, là?
Bien, c'est ça, là. Surtout, comme je disais, sur tous les biens, mais il va avoir aussi un impact sur la politique monétaire. Ça va être intéressant à suivre. Avant la guerre en Iran, les économies mondiales, la plupart ralentissaient un petit peu. C'était le cas au Canada. Puis les banques centrales, là, depuis plusieurs mois, avaient commencé à baisser les taux d'intérêt pour justement pas avoir un effet trop restrictif sur la croissance de l'économie. Mais là, avec la hausse du coût de l'énergie, ça va causer un espèce de casse-tête aux banques centrales. Pourquoi? Bien, le coût de l'énergie qui augmente, ça crée de l'inflation, comme on vient d'en parler. Mais aussi, ça va créer un ralentissement de l'économie pour les entreprises. Ça va coûter plus cher à produire. Donc, les gens vont moins acheter, puis l'économie va ralentir. Alors, quelle va être la politique monétaire? Si on regarde juste la composante inflation, on voudrait augmenter les taux pour réduire l'inflation, mais si un ralentissement, on voudrait les baisser. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes là, au niveau de la politique monétaire. Habituellement, la décision est assez facile. L'inflation est souvent causée par une surchauffe de l'économie, puis là, c'est clair, la banque centrale augmente un petit peu les taux d'intérêt pour augmenter le coût de l'emprunt ou du crédit dans l'économie, puis ça, bien, ça aide l'économie à ralentir un peu, puis ça réduit l'augmentation des prix. Mais ici, l'inflation est alimentée par une hausse du coût de l'énergie, puis qui elle-même contribue au ralentissement de l'économie. Alors, qu'est-ce que la Banque centrale va faire? La prochaine annonce va être le 29 avril, donc dans à peu près 2 semaines, la Banque centrale va annoncer le taux d'intérêt. Donc, ça va être à suivre. On va voir au niveau économie là, un mois d'avril occupé. L'économie occupe le haut du pavé des manchettes. Là, ça va être à suivre. On ne manquera pas de sujet pour nos chroniques.
Non, certainement pas. Puis on a hâte aussi de voir qui sera le nouveau ministre de l'économie.
Effectivement, au Québec. Là,
oui, oui, oui.
Parce que madame...
si on revient madame, ici, là, oui.
Oui, oui, exactement. Là, parce que là, on a une nouvelle première ministre. Alors,
sûrement,
il va y avoir un nouveau cabinet d'annoncé.
Oui.
Ça va être assuré. Ça ne sera pas pour bien longtemps, mais quand même, ça se peut que ça ait un impact.
Oui, oui, parce que dans l'air circule le nom de Bernard Drinville qui aurait manifesté son envie de devenir le ministre de l'économie. Je pense qu'il y a un autre mot aussi là, associé à ça, mais l'économie est dans son désir qu'il a manifesté auprès de Christine Fréchette.
Oui, c'est ça. J'ai l'impression que aux finances, ça me surprendrait qu'il change le ministre Girard.
Non, donc, moi aussi, ça me surprendrait.
Donc, d'après moi, lui, il va rester, mais effectivement, là, le ministère, comme vous dites, c'est pas le nom officiel, là, mais c'est, je pense, c'est commerce, économie ou développement économique. Bon, ce sera de voir M. Drinville, qui, en général, n'a pas occupé des postes économiques. Donc, ça va être intéressant à suivre.
Oui, on va pouvoir en reparler. Oui. Merci beaucoup, Michel, pour cette chronique. On se reparle la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Au revoir.